same old place, sweet home Chicago. C'est la deuxième heure de ce 1213e Sweet Home Chicago. Une exclusivité avant sa sortie le 8 décembre. Nous écouterons pour la toute première fois 5 titres du nouvel album de Rosedale qui s'appelle Anywhere Far Away et l'interview d'Amandine Rose et de Charlie Faber captée lors du dernier Bar Festival en septembre. L'occasion de revenir sur la jeunesse de ce nouveau 11 titres aux inventives saveurs rock et délicieusement 70s, mais aussi sur leur carrière et leur vision de la musique à travers le monde. On terminera d'ailleurs la dernière partie de cette émission avec Led Zeppelin à l'époque dorée. Puis on aura un extrait du dernier album en date de Little Big Sister, un sacré groupe Frenchie qui vient de se produire sur le Montfort Blues Festival et dont on reparlera dans les numéros à venir. Voici cette interview de Amandine Rose et Charlie Faber, mais tout d'abord un premier extrait de Anywhere Far Away de Rosedale, ça s'appelle Bright Crown. Avec Rosedale dans Sweet Home Chicago. Alors, bonjour Amandine.
Bonjour Marc.
Bonjour Charlie.
Bonjour.
Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé dans l'émission et là il y a une actualité, il y a un disque qui arrive là ces jours-ci. Alors forcément, un petit point info sur Rosedale, c'est important l'arrivée d'un disque. La dernière fois c'était il y a 2 ans et demi et c'était justement à l'occasion du changement de nom ou pas d'ailleurs, hein, Rosedale avec un Z et puis aussi du changement d'orientation musicale du groupe.
Et là, je voulais juste savoir si, comme ça, pour les gens qui n'ont pas encore écouté l'album, pour vous, c'était à nouveau un changement d'orientation ou si c'était la confirmation, le prolongement de cet album qui s'appelait tout simplement Lost Dale, sorti en 2021.
Moi, je pense que cet album, c'est vraiment le juste milieu entre les premiers albums qui étaient très orientés blues rock, même, je dirais, et le dernier qui est c'est un peu plus du rock à chanson. Et là, c'est une sorte de mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a on retrouve vraiment les racines blues rock de Rosedale, avec le côté quand même chanson est un peu plus hargneux que les premiers albums. Et puis tout ça, on avait aussi envie de faire un retour un peu à nos influences des années 70, quoi, surtout ce qui nous a donné envie de faire de la musique. Led Zeppelin, on a ça en commun.
Led Zeppelin, voilà. Ben oui, ça transparaît dès la première plage à l'écoute. Et moi, j'ai l'impression que le batteur, il a posé son petit John Bonham illustré à la perfection, non? C'est délibéré, ça.
Il est fan et c'est un truc qu'il avait déjà dans son jeu et dans le sang et du coup c'est pour ça que ça se fait très naturellement, quoi.
Alors c'est pas, on va préciser, hein, évidemment, c'est pas du tout un album tribute to Led Zepp, c'est l'album de Rosedale avec uniquement les compositions. Hein, il faut le préciser parce que on aime bien de temps en temps sur certains albums nouveaux réécouter deux trois reprises parce que ça fait toujours plaisir de revenir à des choses, à s'accrocher à des classiques, mais c'est pas du tout votre truc, ça.
Hein, c'est vrai que pour les albums, on s'est jamais dit qu'on allait faire une reprise. Après, je dis pas que ça peut pas arriver à l'avenir, on sait jamais.
Mais ça arrive en live. Hein.
Mais en live, voilà, live, ça arrive. Et non, l'album, je crois qu'on l'a, enfin, quand on fait un album, déjà, on doit choisir en général les titres qu'on va mettre dessus parce qu'on en a toujours un petit peu plus.
Mais oui.
Donc, si on devait rajouter encore des reprises, ça serait un peu compliqué.
Est-ce qu'il y a des invités sur l'album?
Oui. Ouais. Alors. Parce qu'il y a invité et invité. Ouais, ouais. Il y a des collaborations.
D'accord.
Parce que on a fait appel à plein d'amis pour coécrire des chansons, les textes surtout. Et en musicien, il y a un invité qui est un bassiste en fait sur un morceau que tu connais probablement, qui s'appelle Pascal Mulot.
Mm-hmm.
Voilà, qui est un très bon ami et puis voilà, on a envie de faire un truc ensemble depuis longtemps et du coup on l'a invité à jouer sur un titre de l'album. Voilà. Et les collaborations. Et ben, je te laisse en parler.
Collaboration, il y a par exemple Mike Anderson. Qui a écrit le texte de The Song of My Life
et de Stillwater.
Et de Stillwater. Ouais.
On a Johnny Gallagher,
ouais.
Qui nous a écrit le texte de la première chanson de l'album.
Mm-hmm.
Il y a Seb.
Ouais. Sébastien Dubail, qui est pour ma part un ami de longue date, que je connais depuis très longtemps, qui est musicien-chanteur, et qui a écrit le texte de Secrets and Lies. Et on a Larry Telford.
Ouais, qui avait écrit d'ailleurs
écrit sur le premier album,
sur les deux
et le deuxième
deux
album. Ouais.
Et voilà, bah pareil, il a écrit un texte pour nous. Et puis on a eu des coups de main. Richie Milton nous a filé un coup de main sur une chanson. Mm. Et évidemment, il y a pour cet album, il y a une vraie collaboration avec Rémi Gatliff, le réalisateur, qui a aussi mis sa patte d'ailleurs dans les textes et tout ça, parce qu'on est arrivé au studio en enregistrant live en studio principalement. Et on avait des chansons même pas encore terminées quand on arrivait là-bas et on s'est dit on verra. On savait qu'on avait le bon feeling pour.
Ça s'est fait en combien de temps et en combien de fois cet album-là, entre le début et les toutes premières chansons, la création, l'écriture des toutes premières chansons et puis la fin d'enregistrement jusqu'au mastering, il y a eu combien de semaines, combien de mois?
Alors je crois que vers la fin ça allait très vite, mais
je crois que les toutes premières bribes d'idées. C'est-à-dire d'avoir sans avoir des chansons complètes, mais des riffs à droite à gauche qu'on gardait de côté ou des idées de mélodie. Ça devait faire depuis août 2022, mais en faisant ça, voilà, entre les concerts et tout ça, sans trop se pencher dessus. Mais vraiment, on s'y attelait vraiment toute fin 2022.
Mmh.
Et on s'était forcé, on a pris rendez-vous au studio en janvier.
Voilà, et il y a eu des enregistrements aussitôt, et tout l'album était déjà presque en boîte à cette époque-là, janvier, février 23 ou...
Toutes les bases.
Toutes les bases, il fallait rajouter les guitares, les voix peut-être ou...
C'est ça, il fallait rajouter les voix et les guitares additionnelles, mm-hmm. parce qu'on a vraiment enregistré, encore une fois, live, basse, batterie, guitare sur une partie des titres. Et après, il y a des trucs qu'on a changé avec des idées qui venaient. Rémi s'est retrouvé... En fait, à la base, on devait enregistrer quoi, 15 jours. Et Rémi s'est retrouvé ultra emballé quoi, par le projet. Et il a dit, j'ai des idées sur ça, et on pourrait faire ça sur tel morceau et tout. Et arrivé à un moment, il a dit, réunion de crise. Il dit, je trouve ça vraiment dommage de pas passer plus de temps sur telle ou telle chanson, parce qu'il sentait vraiment un truc. Et du coup, il a dit, prenons plus de temps, et puis laissons-nous aller, quoi, pour écrire plus de trucs, vu qu'on n'avait pas une date absolument urgente pour sortir l'album. Mmh. Et donc, du coup, ouais, ça s'est fait en au moins 3 sessions, 4 sessions. Ouais. Mais de façon très chill, quoi. On bossait sévère, mais en prenant le temps de la musique, quoi, sans se dire allez, il nous reste 12 minutes avant que le studio ferme.
C'est peut-être aussi ça l'avantage de pas avoir forcément un label qui te dit un label ou une maison de disque qui te dit voilà, il faut un album pour avril, donc démerdez-vous, mais fin mars que ce soit bouclé. C'est comme ça que vous fonctionnez, c'est la liberté.
Ouais. Et puis même sur les labels, je pense que Dixie Frog à l'époque de Philippe Langlois.
Il gardait une petite marge. Ouais.
Oui.
Quand il nous disait janvier, il savait que jamais on lui redonnait un album fini en janvier.
Il y a label et label, on est d'accord.
Il y a label humain, quoi. Philippe Langlois, c'est le souvenir que tu connais très bien.
Bien sûr.
C'est un humain.
Et puis ses successeurs, je crois qu'ils fonctionnent un peu avec le même esprit d'ailleurs. distribution de l'album, comment va-t-on faire? L'album sort ces jours-ci, comment va-t-on faire pour se le procurer?
Eh bien, pour se le procurer, il faudra venir nous voir en live. C'est une décision qu'on a prise sur notre site internet.
D'accord, donc il n'y aura pas les plateformes et tout ça?
Pas d'intermédiaire. Pour cet album, on a décidé de faire tout ça sans intermédiaire, sachant que de toute façon, faut être honnête, hein, c'est tous les musiciens le diront, je pense, c'est en live qu'on vend le plus d'albums.
Ouais.
Donc,
c'est ça, le marché du disque a tellement changé.
Ouais.
Alors l'album là, quand même, il est coproduit avec Balade en Tour Production, mais on a décidé, c'était notre idée, mais d'un commun accord, de pas le faire distribuer.
Mmh.
Voilà. Et on a eu 3 propositions de label. On a beaucoup réfléchi, et malgré tout le respect qu'on a pour eux et leur travail et tout ça, mais vu notre situation, là où on en est dans notre carrière, etc. Voilà, c'est une décision prise en pleine conscience.
Est-ce que ça va aussi dans le fait de se dire, à partir du moment où on met des choses sur une plus grande échelle, sur un plus grand pied, par exemple sur les plateformes, on se retrouve avec beaucoup de copies indésirables, enfin avec des gens qui piratent, quoi, finalement.
Oh non. De toute façon, avec les plateformes, tout le monde le sait, les artistes gagnent rien.
Ça, c'est clair.
Sauf si tu fais des millions et des millions et des millions d'écoutes, ouais. C'est encore. Mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais après, le digital, c'est bien. On connaît plein de gens qui écoutent. Même nous, on le fait à la maison. On écoute de la musique sur Deezer, des albums qu'on aime bien, mais ce qui nous empêche pas de les acheter.
Mmh.
Et d'avoir également l'objet, voilà. Donc il y a quand même des gens qui continuent à acheter du
physique. Ouais.
Du physique, mais.
Et puis je suis pas sûr que le piratage existe encore tant que ça, parce que maintenant n'importe qui peut gratuitement écouter n'importe quel album sur Deezer, parce qu'il sera, quand même sur les plateformes.
Oui, il sera sur les plateformes.
D'accord.
Ouais. Et justement, en fait, c'est que les choses ont tellement changé que, je veux dire, les artistes de nos jours, en tout cas indés, font plus leur carrière sur des ventes d'albums, quoi. Faut pas se mentir, il suffit de regarder avec combien d'albums on fait un disque d'or de nos jours. Et la musique, nous on vit grâce au live, et justement notre idée c'est qu'il y ait un maximum de gens qui puissent écouter l'album, ils pourront l'écouter sur internet, ils pourront le commander en direct, et puis maintenant ça devient presque un objet collector ou un prétexte de rencontre à la fin des concerts, quand les gens viennent chercher un CD, c'est pour discuter un peu, pour avoir une signature, un souvenir de la soirée, ainsi de suite. Donc voilà, on vient des choses... On essaye un peu plus humaine, quoi.
Alors vous qui ne jouez pas qu'en France, notamment en Allemagne, est-ce que la situation est la même là-bas, déjà au niveau du public? Ça, c'est une question, on en avait déjà parlé, il me semble, mais je voulais savoir si après les derniers concerts, finalement, il y avait toujours cette dichotomie entre le public germanique, puis du Benelux et de la Scandinavie d'un côté, et puis les plus latins, les Français de l'autre, quoi.
Bah en fait, ce qu'on se dit souvent en voyageant comme ça un peu partout, c'est vraiment différent partout.
Mmh.
Mais c'est intéressant partout. En Allemagne, c'est vrai qu'ils sont très rock, quoi. Ça, c'est vraiment une culture qu'ils ont. Donc, c'est différent. En France, on a des niches. Enfin, tu le sais, on a une niche un peu blues rock. C'est différent. C'est intéressant aussi parce que y a toujours un public pour ça. Mais en Allemagne, c'est vrai que c'est un peu plus... Tu peux toucher plus de monde, je trouve, tu vois, au niveau... C'est pas que dans une niche, quoi. Voilà. Enfin, c'est une sensation, en tout cas.
Charlie, tu partages ça aussi?
Complètement. Et il y a deux trucs qui sont très indicateurs de ça. C'est déjà, il suffit de regarder les tournées des artistes américains. Je parle des gros artistes. Hein, quand ils viennent en France, souvent en France, ils font très peu de concerts.
Mm-hmm.
C'est rare qu'ils fassent une vraie tournée de la France. Ils vont faire Paris, Lyon, quelques grosses villes, ou des fois même que Paris. Et quand tu regardes en Allemagne, ils vont faire des fois 10 dates, 12 dates là-bas.
Ouais.
Ça, c'est un truc. Et l'autre truc, pour confirmer ce que dit Amandine, c'est vrai qu'en Allemagne, sur par exemple la plus grande radio du service public allemand,
Deutschlandfunk, voilà. Ouais.
Et bah t'as une émission consacrée au blues, je trouve ça extraordinaire, et à l'heure de grande écoute, quoi. Alors en France,
sur une radio nationale, ouais. Enfin peut-être, mais c'est...
On a eu ça il y a 25 ans avec Patrick Verbeek sur Europe 1.
Exactement.
Hein. Depuis, il n'y a jamais eu de remplaçant, hein, tu m'as dit, hein. c'est vrai. Hein.
Donc là, c'est une histoire de culture. Hein,
mais en Belgique, c'est pareil. Hein, sur Classic 21, mm-hmm. Il y a plusieurs émissions spécialisées blues, et pas forcément à 2h du matin. Et voilà. Et nous, on ne sait pas faire.
Malheureusement.
Donc que ce soit le public ou effectivement les médias, mais de toute façon, il y a une corrélation. C'est évident qu'il y a une partie des médias qui influence le public, et puis le contraire est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ailleurs? Par exemple, vous avez joué plus à l'est en Europe, plus au sud aussi, jusqu'en Croatie, je sais pas,
en Espagne,
République tchèque, Slovénie.
Comment est le public là-bas? Comment est-ce que vous êtes reçu? Comment est-ce qu'on reçoit votre musique?
Ouais, écoute, je peux que dire que, mis à part la barrière de la langue pour les gens qui parlent pas anglais, en Slovénie par exemple, tout, enfin c'est un peu comme partout au final. Si tu veux, ce qui change, tu vas le voir au-delà de la musique, ça va être dans le comportement des gens, leur façon de t'accueillir, leur façon de sourire. Enfin, chaque pays a un petit peu ses marques, quoi. Mais c'est difficile à décrire, en fait.
Et puis, on a une image. Tu te rappelles, c'était en République tchèque, je crois. Où des gens sont venus nous voir.
Ça date un petit peu, mais
ça fait quelques années. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir après le concert au stand merch. J'ai adoré le concert. Et ils nous ont dit, on hésitait à venir, on connaissait pas. On voulait découvrir, on s'est dit, c'est bizarre, un groupe français qui fait du rock.
Ouais.
Et on a cette image qui colle à la peau, quoi. Comme quoi les Français sont, déjà, John Lennon le disait déjà, les Français sont rock, ce que les Anglais sont vin, un truc comme ça. À la musique même, je crois qu'il disait. On a un peu cette image qui colle à la peau, mais non, hormis ça, non, ça marche très bien. Il y a aussi ce côté où souvent, en tant que Français, en tant qu'étranger dans un pays, on n'est pas reçu pareil que quelqu'un du pays, quoi. C'est comme ça, l'herbe est toujours
plus intérieure. C'est comme ça partout. Tu peux venir de n'importe où, tant que t'es pas chez toi, c'est différent.
depuis 2016-2017, la création de Rosedale, il s'est passé déjà un certain nombre d'années. Il y a plusieurs musiciens qui sont passés dans le rang, et puis il y a eu plusieurs albums, donc celui qui est en train d'arriver. Si on peut avoir un petit regard rétrospectif sur ce que vous faisiez à l'époque de la création du groupe, et puis maintenant, comment est-ce que vous voyez ça de l'intérieur?
Moi, je vois ça comme vraiment une évolution. Et puis je sais pas comment expliquer, mais par exemple, Charlie et moi, quand on s'est rencontrés, je sais que on avait vraiment en commun justement Led Zepp et tous ces trucs un petit peu qu'on écoutait quand on était, enfin qu'on écoute toujours, mais qu'on écoutait depuis très jeune. Et j'ai la sensation que je trouve pas les mots en fait. Vas-y si tu arrives. En fait, c'est clair dans ma tête, mais que dans ma tête, tu vois.
C'est peut-être encore plus difficile de l'intérieur justement. On peut pas être plus à l'intérieur que vous.
C'est ça. Ouais. Je pense que plus on n'est pas très vieux, mais plus on prend de l'âge, et moins on se pose de questions. C'est-à-dire que on cherche plus, je dis ça pas de manière complètement en toute humilité, on cherche plus à faire nos preuves. Mm-hmm. On cherche plus à prouver qu'on est bon, les gens peuvent aimer ou pas aimer ce qu'on fait, quoi.
Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'au début, t'as la sensation que tu dois vraiment montrer, donner envie et tout. Maintenant, évidemment, t'as envie que les gens aient envie de revenir te voir ou de venir te voir, mais c'est plus pareil. Mmh. Enfin, ce qui change, c'est que t'es plus serein. Enfin, je sais pas, j'ai ce sentiment.
C'est ça. Ouais, on sentait ça, on avait envie de faire ça, et voilà, on l'a fait. Ça nous a paru tellement naturel, et rétrospectivement, à chaque fois qu'on a fait quelque chose qui était pas dans les limites ou dans le standard ou dans les classiques, c'est-à-dire, je prends le morceau de Kind of Manuar à Vienne. Quand on a sorti la vidéo, on a sorti un morceau de 15 minutes. Et on s'est dit que c'est super long, 15 minutes, tu sais, quand on t'exige des formats à 3 ou 4 minutes.
Ah, il faut 3-45 tours pour sortir ça.
Mais en fait, cette peur a disparu en réalisant au fur et à mesure, enfin, en gagnant cette lucidité, que les gens s'en foutent, en fait, ils ont juste envie d'entendre quelque chose qui leur plaît, et si ça les touche, que ça fasse une minute ou 75. C'est pas très important, et c'est pareil pour la musique d'une manière générale. Je pense que si on arrive à faire un truc assez sincèrement pour que ça les touche, ça marchera. Si on a appris quelque chose, c'est ça. Ouais.
Donc Rosedale, toujours jeune, mais avec de l'expérience maintenant. Et puis, l'expérience et l'habitude de jouer ensemble. C'est toujours facile de jouer ensemble quand on est un couple sur scène et à la ville.
Ouais. Moi, je crois que c'est ce qui nous garde soudés tout le temps. Non, c'est super bien, moi j'aime bien.
Ça marche tout seul.
Ouais. Comment est-ce que l'auditeur et puis le fan de Rosedale doit aborder ce nouvel album? Je reviens sur le disque. Il y a des choses, on retrouve nos marques hein, par rapport au précédent, mais il y a aussi on va de l'avant, malgré ce que tu disais, le fait qu'il y ait beaucoup de références à des 70, bien sûr. Mais j'ai quand même l'impression d'un cran supplémentaire, que ce soit dans la façon de le faire. Vous avez visiblement beaucoup travaillé, et puis la mise en place, elle est juste irréprochable. Et puis cette finesse, cette cohésion aussi qui existe avec le batteur et le bassiste. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir passé un cran supplémentaire avec ce disque?
C'est dur de répondre à ça. En tout cas, je sais qu'on avait une hargne pendant l'écriture et pendant l'enregistrement, parce que contrairement à l'album d'avant, où on était dans on le disait souvent en interview, on était dans un état d'esprit différent parce que ça tombait en plein pendant la pandémie,
la grippe, tout ça,
c'était difficile, hein, comme pour plein de gens. Et je crois que quand on est arrivé à faire cet album-là, on venait de reprendre depuis quelque temps les concerts, ça commençait à se débloquer de partout. Et là, c'était une espèce de soulagement, et on n'avait qu'une envie. Enfin, quand on était dans l'état d'esprit pendant l'écriture de cet album, l'état d'esprit, c'était on a envie de faire du rock, on a envie de... Voilà, on se mettait sur scène, dans nos têtes. Et après, est-ce qu'on a...
Ce qui est sûr, c'est que... Le public de Rosedale, je pense, ne sera absolument pas perdu. Parce que je suis persuadé, ces influences... Je tiens à rappeler ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas du tout un album tribute, et on a vraiment essayé de pas faire du pompage. On sent des influences, par exemple, de Led Zeppelin et tout ça, mais il y a moi, pour être le plus grand fan au monde de Led Zeppelin, il y a des morceaux qu'ils auraient jamais écrits de cette façon, qu'ils auraient jamais joué, quoi, parce que c'est pas eux. Je pense que c'est aussi parce qu'on n'est pas de la même époque, hein, tout simplement. Mais les gens sont pas du tout perdus, ceux qui nous connaissent, parce que je suis persuadé que les gens qui écoutaient Rosedale sont déjà des gens qui justement écoutent, aiment bien ACDC, Led Zeppelin et tout ça. Et aussi parce qu'on on revient quand même plus qu'avec l'album d'avant à ses à nos racines blues quoi. C'est pas classique, mais il y a quand même un morceau qui est très proche quand même d'un blues lent dans l'esprit. Et je pense vraiment que s'ils se posent pas trop de questions, ils vont se sentir comme à la maison.
Et pour revenir un peu sur les premières années de Rosedel, il y avait cette période-là, on l'a dit, donc 2016-2017, vous vous positionniez sur une scène française, tout simplement, avec un nombre très limité de groupes où il y avait une chanteuse. Et moi, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, il y en a de plus en plus. Hein. On peut en citer quelques-unes, Little Odetta, Hélène, il y a Lionel Bousquant, etc. Il y a un certain nombre de formules avec une chanteuse féminine. Il y en a de plus en plus en France. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous stimule? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve ça normal. Non, je trouve ça normal. Je trouve que les femmes ont... Après, je suis en mode femme, homme, pareil. Voilà. Tout le monde a sa place. Voilà. Je me pose pas plus de questions.
Il n'y a pas de différence pour toi.
Non.
Mm-hmm. On voit, Lemboyne avait déjà avant, on voit des fois l'émergence des soirées 100% féminines, des trucs comme ça. Mais non, franchement, à part ça, c'est très bien. Je veux dire, ce qui est bien en musique, c'est que justement, il y a de la place pour tout le monde. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Si tout le monde est heureux, c'est parfait.
Super. Si on peut rêver un petit peu les États-Unis, je crois qu'on avait déjà évoqué ça, ce serait chose possible. Est-ce que vous pensez qu'il y a un public américain pour la musique de Rosedel?
Bah, il y a des gens là-bas qui nous ont contactés plusieurs fois.
Il y a des ouvertures.
Il y en a déjà depuis deux ans, je crois, pas mal. Ouais. On n'a pas pu le faire parce que on avait beaucoup d'autres choses à faire à côté, donc c'était pas faisable. Pour cette année, c'est pareil. On était invité cet été, mais ce sera peut-être pour 2024. Mm-hmm. Mais bah, pareil, parce que cette année, avec la sortie de l'album et tout ça, il y a déjà beaucoup de choses à faire, les clips et tout ça, et la promo. Donc,
Et puis les papiers pour les États-Unis.
Les papiers pour les États-Unis, c'est incroyable.
Il n'y a pas que les stats pour les touristes. Non. Quand on veut travailler là-bas, c'est un peu là.
C'est très compliqué, c'est ouais. Eux n'ont pas ce problème quand ils viennent.
Et surtout quand c'est.
C'est nous quand on veut y aller.
C'est ça, que dans l'autre sens. Ouais. Et puis même, on parle de voilà, avec des productions américaines, tu peux pas y aller avec un visa touristique et dire on va jouer.
À moins de payer un groupe américain à ne pas jouer.
C'est ça.
Il y en a qui font ça. Hein.
C'est vrai.
Ouais. C'est-à-dire, ça coûte double cachet, c'est simple. Tu joues à la place du groupe américain qui est payé, qui te regarde jouer. C'est amusant.
Il faut que tu montes une rubrique, les astuces de Marc Loison.
Il faut que je mette ça sur le bon coin. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter en guise de conclusion? Bien sûr, vendre le plus d'albums possible, faire le plus de concerts possible. Est-ce qu'il y a des pays que vous n'avez pas encore visités, que vous aimeriez... vous aimeriez aller? Est-ce qu'il y a des scènes encore en France, des festivals ou des lieux particuliers que vous n'avez pas fait et que vous aimeriez écumer?
Dans les pays, tout ça, j'aimerais beaucoup aller au Canada.
Ouais.
Un peu partout. Hein.
L'Angleterre, on n'a jamais fait.
L'Angleterre,
ça serait super. Non, puis en France, il y en a plein de lieux qu'on aimerait bien faire ou refaire.
On aime bien le Soudoc, tu connais?
Oui, je connais, oui.
C'est un super lieu.
Ah, mais.
On y a joué plusieurs fois, tu vois.
Effectivement. Deux ou trois fois, je crois.
On n'a pas fait Cahors encore.
Ouais.
On n'a pas fait Cahors avec Rosedel. Ce serait sympa. Il y a quelques festivals qu'on n'a pas fait et d'autres qu'on aimerait bien refaire, qu'on fera très certainement.
Comme Cognac, par exemple. Ouais.
Oui. Donc, non, il y a plein de lieux. Nous, si c'était que nous, on jouerait partout. Hein.
Amandine et Charlie, s'il y avait un groupe qui devait suivre un petit peu votre idiome musical, votre colonne vertébrale de Rosedel, mais sans faire du Rosedel, je veux dire, mais qui aimerait se monter autour de cette formule-là à quatre, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner ou pas du tout? Démerdez-vous les mecs. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, des choses, par exemple, des écueils, des choses que vous aimeriez leur faire éviter?
Bon, je pense toujours être soi-même, ça c'est vraiment la base, ça j'en suis sûr. Faire attention aux gens qu'on rencontre, toujours bien cerner les gens, ce qui est...
Et jouer le plus possible, en live.
Jouer, voilà.
C'est ça le plus important.
Alors, jouer souvent en live, ça peut vouloir dire aussi, parfois, malheureusement, jouer à tout prix.
Non, ça c'est l'erreur que beaucoup, à mon sens, font. Il y a beaucoup de plus jeunes ou de jeunes qui vont jouer dans par exemple, des bars pour rien. Pour une bière, parce que c'est génial, le mec leur offre une bière, grand seigneur. Et en fait, c'est le pire truc à faire. Mmh. Moi, je pense que c'est le pire truc à faire.
Donc, jouer beaucoup, mais pas jouer gratos.
Non, pas gratos.
Enfin, il y a des... C'est ça.
Gratos,
ça dépend des conditions, ça dépend pourquoi.
Si c'est une exposition de fou, tout ça, qui peut faire avancer les choses, mais pour aller jouer dans un bar... Pour une bonne cause, bien sûr. Mais pour aller jouer dans un bar, c'est pas ce qui va changer ta vie, pour rien.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire?
Après, pour un tout jeune groupe, vraiment jeune, C'est vrai que ça devient de plus en plus dur parce qu'il y a énormément de lieux qui ferment, quoi.
Ouais, mais tu peux faire des défraiements ou quelque chose.
Ouais, oui, c'est ça, ouais, bien sûr, bien sûr.
Parce qu'après, t'as aussi des intermittents du spectacle qui, eux, n'ont plus de place dans ce genre de lieu, qui faisaient des bars, tout ça, parce que les mecs, ils veulent plus payer et ils prennent des gens qui jouent gratuitement. Ouais. Donc, il y a des intermittents qui n'ont plus de boulot non plus. Tu vois, donc, voilà. Bon, après, c'est un grand débat.
C'est ça.
Amandine, tu viens de prononcer le mot bar. On est ici au bar de chez Dominique Bouillon,
ouais.
Et les 40 ou 50 ou 60e régissant dans cette commune de Beaumont-Veyron. Vous êtes déjà passé au temps des crises. Un petit mot pour Dominique et son équipe pour lequel vous jouez ce week-end. Vous ouvrez presque le festival. Enfin, il y a Little Detta là, qui est en train de faire sa balance juste avant vous. Et puis vous ouvrez cette première soirée. Un petit mot pour Dominique et
pour
l'équipe.
Dominique, bah déjà, on garde un super souvenir de Dominique. On s'est vu il y a des années au temps des crises.
Ouais.
On a joué et puis non, on est super contents. On a un super accueil, les gens sont, l'équipe est super.
Et ça se fait tardivement en plus.
Ouais.
Parce qu'ils ont décidé quand seulement, je crois, en juillet ou août, de faire
pour
de
cette année.
Pour cette année.
Ouais.
La première depuis, donc on est ravis qu'il nous a appelé. Hein.
Ouais.
Et puis on est un peu déçus qu'il ait, il a rasé sa barbe.
Ah ouais. On s'en revient.
Les gens changent.
Bon, en tout cas, merci et puis longue vie à Rosedale, bien sûr, et puis on espère des milliers de disques vendus pour ce tout nouvel album. On va en écouter un nouvel extrait dans la radio.
Merci beaucoup.
Merci Charlie, merci Amandine.
Merci.
À bientôt.
hands all turn to grey. Another day had just begun, in the silence of the sun, in the silence of the sun, in the silence of the sun, in the silence of the sun.
Voilà, c'était cette interview à propos du tout nouvel album de Rosedale, Anywhere Far Away. On a pu écouter 5 extraits, je vous l'avais promis. Bright Crown, Stillwater, On Fire, The Song of My Life. Et là vient de se terminer Silence of the Sun. C'était Anywhere Far Away, un album qui, je vous le rappelle, sort chez Balanator Productions le 8 décembre prochain avec une release party le 9 décembre. Rosedale, on en reparlera bien sûr dans Sweet Home Chicago. On revient maintenant en 1970 avec Led Zeppelin, Celebration Day. C'est toujours un plaisir.
Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back.
Extrait du troisième album de Led Zeppelin, qui s'appelait tout simplement 3. Ils sont allés jusqu'à 4 avant House of the Holy. Et oui, en 1970, ils avaient enregistré 2 albums, et le précédent daté de 69. En 18 mois, 3 albums, tous des classiques et absolument rien acheté, bien sûr. Si vous n'avez pas la discographie de Led Zeppelin, courez l'acheter, évidemment. Voici maintenant, pour terminer, Little Big Sister, un groupe que j'ai découvert un peu sur le tard, parce que je crois qu'ils se sont formés vers 2016. Leur premier album remonte à 2017. Leur dernier de 2021, c'est celui qu'on va écouter avec le titre Disappear. Little Big Sister, découvrir pour moi, hein, un petit peu tardivement lors de ce festival Montfort édition 2023. C'est eux qui avaient ouvert d'ailleurs. Et moi, je trouve ça superbe. Écoutez-moi ça. Disappear de Little Big Sister. C'est ainsi que se termine le 1213e Sweet Home Chicago. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant quelques secondes de cet album Little Big Sister pour le plaisir, puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Salut, bye bye.